Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec nous en direct, Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour Antoine.
Et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants qui est en visio avec nous ce matin. Bonjour Félix. Je vais peut-être commencer par vous. On disait retour aux fondamentaux sur les marchés. Alors ça vaut pour les résultats d'entreprise, ça vaut pour les chiffres macroéconomiques et il nous dirige plutôt du côté du marché chinois. C'est-à-dire qu'on a une agitation géopolitique et un climat de crispation qui commence à avoir des implications de plus en plus palpables sur le marché de l'énergie et la Chine est en plein milieu du dossier. Quel est le sentiment vis-à-vis de la Chine? Parce qu'on attend aussi de ce pays de rester une des locomotives économiques mondiales. On sent que la crispation est maximale. Au niveau géopolitique aussi, hein, la Chine est au centre de l'échiquier. Économiquement, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut éventuellement redouter, Félix? Félix Baron qui apparemment ne nous entend absolument pas. Christian Fontaine, on va peut-être commencer par vous. Alors, on est dans ce retour aux fondamentaux des marchés, donc on parlait de la macroéconomie et de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui nous attend éventuellement pour les résultats du premier trimestre? On a eu alors deux types d'indications. Le secteur bancaire américain, ça va plutôt bien. Ça va continuer, hein, les publications aujourd'hui. Puis on a eu LVMH. Alors LVMH, tout le monde était « Oh là là, catastrophe, c'est en dessous du consensus. » Bon, ça va. 19 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre qui est marqué par une crispation totale. Et puis des signaux encourageants aussi, ça se passe bien du côté du marché chinois là précisément et du côté du marché américain. Qu'est-ce qu'on peut anticiper de ce premier trimestre?
Alors, d'accord avec vous sur le constat, à savoir que pour le CAC 40 et d'une façon générale pour la Bourse de Paris, donc on ouvre une nouvelle séquence, donc la séquence des résultats qui a débuté hier avec les résultats de LVMH. Alors effectivement, hors marché, hors séance, on était sur autour de moins 3% et puis une baisse qui se réduit de minute en minute et on doit être pas loin autour de 0% aujourd'hui de variation pour l'indice LVMH. Alors, si on prend un tout petit peu de hauteur, en fait, les anticipations des marchés sont assez élevées avec une progression attendue des résultats du T1 aux États-Unis pour le Standard & Poor's 500 autour de plus 12,5%. En Europe, on est avec des résultats on attend autour de 4 à 5%. Alors attention, aux États-Unis, on communique sur les résultats nets. En Europe, c'est plutôt des évolutions de chiffre d'affaires. Quel enseignement tirer de cette première publication? D'abord, je suis assez d'accord avec votre ligne et votre analyse, à savoir que c'est loin d'être catastrophique et en tout cas c'est bien meilleur que la réaction de la bourse fin janvier. À l'annonce des résultats annuels, souvenez-vous, l'annonce des résultats annuels d'LVMH 2025, le 27 janvier, le 28 janvier, le lendemain, le cours avait décroché de moins 8%. En fait, la vraie question qui se pose, c'est, souvenez-vous des résultats annuels, l'accueil des marchés avait été d'une volatilité incroyable. Certains titres, notamment Dassault Systèmes de mémoire, avaient décroché de moins 20%. Donc, il y avait eu des variations considérables.
Je mettrais ça en parallèle. L'accueil des résultats d'LVMH à ceux de Microsoft. On a eu vraiment, les titres se sont fait émietter, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que justement, on n'est pas devenu beaucoup trop négatif sur des locomotives de marché, LVMH chez nous et Microsoft du côté des États-Unis?
Mais c'est peut-être le premier renseignement de ces résultats trimestriels, à savoir que les variations sont relativement faibles. En tout cas, là, pour cette première réaction sur le titre LVMH, donc qui a publié les T1 hier soir, la réaction est très faible. Donc, on voit bien la résilience en fait du marché. Alors, au-delà, en fait, qu'est-ce qui va intéresser les analystes? C'est de voir quel est l'impact, en fait, macroéconomique de la crise en Iran. Et surtout, cet impact à très court terme va être sans doute très faible, hein, puisqu'en fait, il n'y a eu que 2 mois. Donc, le temps que cette crise commence à se diffuser dans l'économie, c'est trop peu. On va regarder, effectivement, de près quelles vont être les réactions et les sentiments des chefs d'entreprise sur le reste de l'année. C'est ça qui va devenir qui va devenir essentiel. En fait, on voit bien que alors c'est un peu trop tôt pour le dire, mais on se dirige. Il y a eu la parenthèse de la guerre en Iran, et peut-être qu'on peut fermer cette parenthèse et on va revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, notamment, c'est l'impact de l'IA sur la macroéconomie, l'impact aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors après ça, la question est de savoir un tout petit peu que faut-il faire dans une telle conjoncture lorsqu'on est un investisseur particulier. Mais j'aurais tendance à dire, je sais bien, c'est pas très vendeur pour une émission placement comme la vôtre, mais c'est surtout sans doute de ne rien faire. Et pourquoi ne rien faire ?
Mais c'est une décision importante de rien faire sur les marchés et pour ses placements.
Et en période de crise, Warren Buffett, que vous citez souvent, et nous aussi au revenu, a toujours tendance à dire, est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter demain, est-ce qu'il faut acheter dans un mois ? Enfin, en compte, tout dépend de votre situation personnelle. Donc moi, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, on ne bouge pas. Attention, si on sort du marché, on risque de passer à côté d'un rebond violent. Regardez ce qui s'est passé mercredi dernier, avec un CAC 40 qui a quand même pris 4,5% dans la journée.
Et qui lâche rien depuis.
Donc, si vous n'étiez pas investi mercredi dernier, ou si vous aviez pris une partie de vos gains et que vous aviez 20-25% de liquidité, votre performance annuelle par rapport au CAC 40, elle est déjà morte. Ouais. Bon. Donc, attention aux effets de porte de saloon qui consiste à essayer de sortir du marché parce que vous prenez la baisse et vous prenez pas la hausse qui suit. On vient de terminer un mois de mars sur le CAC 40 historique. C'était l'un des pires mois depuis 6 ans, en fait. Mais attention, l'année dernière, le mois d'avril, c'est au mois d'avril, le fameux mois d'avril des tarifs, où on a vu les plus fortes séances de baisse, mais les plus fortes séances de hausse aujourd'hui.
De reprise, bien
Donc,
sûr.
J'aurais tendance à dire prudence, restez investi si, encore une fois, si votre profil d'investisseur le permet, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de toute partie des liquidités de votre argent investi en bourse au cours des 24 ou 36 prochains mois, restez investi, c'est pas forcément non plus le moment, si vous avez quelques liquidités, de faire votre marché. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de faire ses courses, notamment sur des très beaux titres qui avaient beaucoup reculé. Safran, BNP, Schneider et Vinci.
Un petit peu de value, quoi.
Et tous ces titres ont rebondi mercredi dernier et jeudi dernier. Ils ont tous repris 10% dans la journée.
Ouais.
Donc, c'est pas forcément le moment de faire son marché. C'est un peu trop tôt. C'est pas le bon market timing. Le seul titre, vous le citiez tout à l'heure, vous parliez de Total. C'est vrai que Total, autour de 80 euros, plus forte progression depuis le début de l'année au sein du CAC 40. On doit être sur une hausse autour de 45%. S'il y a bien un titre sur lequel peut-être quelques prises de bénéfices au cours actuel peut être intéressant, c'est peut-être Total. Voilà. Donc, je crois, on ouvre vraiment une nouvelle séance, une nouvelle séquence de bourse. On va revenir vers les fondamentaux, donc les à la fois les résultats des entreprises et à la fois les guidelines, donc les méga-trends de long terme, notamment la numérisation de l'économie et l'impact de l'IA sur la macro. Donc maintenant, on va regarder un tout petit peu comment réagissent les secteurs qui sont fondamentaux pour la Bourse de Paris. Le luxe, bien sûr, on a déjà eu un avant-goût. Et puis Kering devrait publier aussi, je pense, aujourd'hui après Bourse.
Ce sera
donc,
ça, oui.
Donc on va regarder le luxe, bien sûr, compte tenu notamment de son poids dans le CAC 40. On va suivre, bien sûr, la défense. Est-ce que, vous savez, les titres de défense, notamment, je pense par exemple à Thales, mais il y en a d'autres, depuis un an, ils font pas grand-chose, en fait. Et donc, on va voir si, enfin, je dirais, les commandes augmentent, alors que, bien sûr, les carnets sont déjà bien remplis, mais on va voir s'il y a un phénomène d'accélération. Les secteurs des logiciels, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, c'est quelques secteurs qu'il va falloir regarder de très très près et voir comment les entreprises ont passé ce premier T1.
Effectivement, les logiciels, on en reparlera en toute fin d'émission. Il y a quand même quelques signaux qui montrent que l'hémorragie est peut-être en train de s'arrêter. Félix Baron, Club des investisseurs indépendants. Alors, je vous vois sourire à mon écoute, donc je me dis que vous devez entendre mes questions.
Je vous entends, bien sûr.
Ah, c'est merveilleux, et on vous entend. Donc, c'est parfait. Je voulais juste revenir avec vous sur un dossier, c'est le dossier de la Chine. On attend pas mal de chiffres macroéconomiques sur l'état de l'économie chinoise. On en a déjà quelques-uns depuis hier. En même temps, voilà, la place de la Chine dans l'échiquier géopolitique du moment, commence à faire question. Tous les yeux se tournent vers la Chine, en réalité, aussi bien du point de vue de ce qui se passe à Hormuz que du côté de l'impact que ça peut avoir sur l'économie chinoise, qui est largement importatrice de pétrole. Quel est votre sentiment à ce sujet? Quel point important vous voyez à signaler?
Christian parlait il y a 5 minutes d'une parenthèse de la guerre en Iran qu'on pouvait peut-être refermer. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse la refermer tout de suite parce que le Moyen-Orient, finalement, on pense que c'est juste un problème de pétrole. En réalité, c'est en train de devenir un talon d'Achille de la Chine. Et s'il y en a un qui l'a bien compris, c'est Donald Trump. Il est toujours en train de faire le pitre, à faire des singeries d'un côté ou d'un autre. Mais il a bien compris une chose. Il y a jusqu'à 40% du pétrole de la Chine, voire plus, qui transite par Hormuz. La Chine fait 4 fois plus de commerce international avec le Golfe que les États-Unis. Donc, les États-Unis n'ont pas tellement d'enjeux économiques réels dans la zone. Ils ont un enjeu de contrôle, évidemment. En revanche, la Chine, depuis 20 ans, a investi 270 milliards de dollars dans la région. On est dans le déchiffrage, on parle de 270 milliards sur 20 ans pour faire des raffineries, pour faire des champs pétroliers, gaziers, pour faire des pipelines, des centrales électriques, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Irak, même l'Iran. Donc, pour la Chine, le Golfe, c'est une stratégie de survie économique. Si vous voulez comprendre le jeu du pétrole à Hormuz dans le Golfe, il faut d'abord comprendre la Chine. La Chine n'a pas vraiment d'alternative rapide pour une autre énergie. Les États-Unis, eux, ils s'en moquent. Ils ont 8% de leur pétrole qui vient du Golfe. Le reste, ça vient du Canada. Et c'est là que ça devient intéressant pour les marchés, c'est que la dépendance de la Chine aux pays du Golfe, elle transforme la dynamique du pétrole. On entend souvent que la situation va se calmer puisque on a eu un début d'accord de cessez-le-feu qui n'a pas forcément tenu, un blocus qui pourrait s'arrêter, mais à court terme peut-être que la situation va se calmer. En réalité, le risque autour d'Hormuz est devenu permanent parce que la situation depuis fin février a permis de cristalliser le fait que 20% du pétrole mondial transite à Hormuz, et tant que ce point existe et qui peut permettre de mettre la pression à la Chine par les États-Unis, eh bien le risque d'instabilité ne va jamais disparaître. Donc à court terme, le baril, il peut se stabiliser, voire corriger. Je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, pour moi, d'un couloir entre 90 dollars et 120 dollars. Donc, à mon avis, le baril va rester dans ce couloir. Mais à moyen terme, à horizon 18 mois, 24 mois, la dynamique me paraît différente dans le sens où il y a un sous-investissement global dans le pétrole. La demande asiatique chinoise est forte, même s'ils ont du charbon, même s'ils développent des centrales nucléaires, ils n'ont pas encore pour l'instant d'alternative très rapide pour pivoter. Et puis il y a des tensions géopolitiques persistantes qui conduisent à faire monter le prix du baril. En plus de ça, une asymétrie parce que qui existe. On voit qu'aujourd'hui, une seule fermeture d'une usine ou d'une raffinerie, une frappe, une escalade dans la région, et les prix peuvent exploser très vite. Donc, si vous pensez que le pétrole est pas cher aujourd'hui ou qu'il a été cher, en fait, il est probablement assez mal évalué par le marché qui voit la situation dans le Golfe, qui voit le doigt pointé vers le Golfe, mais qui ne voit pas l'espèce de nouvelle guerre froide, guerre tiède entre guillemets, entre les États-Unis et la Chine. Donc la vraie question pour moi, c'est pas est-ce que le pétrole va monter demain, c'est comment on se positionne face à ce risque quand on est investisseur. Alors évidemment, on va pas parier directement sur le baril, c'est trop volatile probablement et trop imprévisible. La bonne approche, encore une fois, pour moi, c'est indirect. Aujourd'hui, à mon avis, en 2026, ceux qui gagnent, c'est ceux qui vont encaisser, ceux qui vont choisir des stratégies d'investissement orientées cash. Donc, des services pétroliers, des infrastructures énergétiques, des pipelines, de la logistique, ça, c'est des actifs qui rapportent du cash et qui sont généralement généreux en dividendes. Et puis, eux, ils gagnent presque dans tous les scénarios. Ouais. Si vous avez des prix élevés dans le pétrole, il y a plus d'activité. Si vous avez des prix stables, le cash flow, il est solide. Et s'il y a de la volatilité, ça fait des marges plus élevées, notamment pour la raffinerie. Donc, ça peut vouloir dire des grands noms des services pétroliers, les majors, j'ai déjà cité, des acteurs du GNL, le gaz naturel liquéfié, des sociétés liées aux infrastructures critiques de l'énergie. On en a plein, il y en a en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le deuxième point pour un investisseur particulier, ça va être de penser protection, parce que derrière le pétrole, il y a un risque inflationniste. Donc, si vous êtes exposé aux matières premières, à l'énergie et éventuellement à l'or, vous suivez au moins l'inflation, à minima. Vous faites peut-être mieux, mais à minima, vous êtes couvert. Et puis enfin, je le disais, ceux qui ont du cash sont ceux qui vont gagner. Donc, probablement garder un peu de cash stratégique. Je rejoins ce que disait Christian sur le fait qu'il faut surtout pas succomber à la panique et que le choix de ne rien faire est déjà un choix en soi. Si votre portefeuille il est déjà bien équilibré autour de l'énergie, des matières premières, éventuellement de l'or, et que vous avez une petite réserve de cash, eh bien, vous pouvez tout à fait ne rien faire et passer un bon début de printemps sur les marchés.
Bon, mais comme ça, on a quelques indications intéressantes hein, pour commencer la journée, pour éventuellement commencer à planter quelques petites graines. Merci beaucoup, Félix Baron, du Club des investisseurs indépendants.
Merci
Christian Fontaine, du magazine Le Revenu. On vous retrouve dans quelques minutes. Hein, on va parler de, c'est aussi de saison, les impôts. Oui. C'est ouvert, la saison de la déclaration. Et autant bien commencer avec quelques bons conseils introductifs. On vous prépare une spéciale. Hein, on réunira nos meilleurs spécialistes. Et Christian Fontaine, s'il a envie d'ailleurs, pour vraiment être complet hein, sur la déclaration d'impôts. On fera ça à horizon 2 semaines. Hein, histoire que vous ayez le temps de vous préparer.